Et à l'heure où blanchit la campagne, la main verte d'Alain Baraton fait son entrée dans le studio de France Inter. Bonjour Alain.
Quel bonheur de vous retrouver. Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Un bonheur partagé. On parle aux fleurs et puis on répond à toutes vos questions ce matin. D'abord celle de Denis et Marie-Josée. Leur question, je vous la lis. Nous constatons que la couleur de certaines fleurs sur le balcon est plus intense qu'elle ne l'a jamais été, comme la lavande dont le bleu tire sur le violet. Le laurier rose, habituellement rose pâle, cette année rose indien. Et puis les petites fleurs de l'oxalis devenues rose orangée. Alors Alain, le confinement peut-il expliquer ce phénomène ?
Eh bien oui, mais avant, je voudrais vous dire qu'on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. D'habitude, je cours.
C'est vrai, là on prend le temps cette année.
On va prendre le temps de répondre aux questions, ce qui explique pourquoi nous passons directement aux questions.
Alors la couleur et le confinement.
Alors, plusieurs phénomènes influencent la couleur d'une fleur. L'ensoleillement, bien évidemment. Mmh. Lorsqu'il y a peu d'ensoleillement, la couleur peut être altérée. La quantité d'eau dans la terre, mais également, et là je vais vous surprendre peut-être, la pollinisation. Une fleur produit des couleurs pour attirer l'insecte ou l'oiseau reproducteur pollinisateur. Et bien de temps en temps, ça influence. Je vais vous donner un exemple caractéristique. Le Victoria d'Amazonie, vous connaissez, c'est le nénuphar géant. Vous savez, ça a des feuilles gigantesques. Ouais. Et bien la fleur, elle est blanche et elle attire l'insecte. Une fois que l'insecte est arrivé, elle se referme sur lui, elle devient rose, peut-être un petit peu par pudeur. Et le lendemain, elle est devenue rouge. En un mot,
c'est magique.
En un mot, la couleur qui est produite est une sorte d'alerte pour l'insecte pollinisateur. Donc pour la lavande, en fonction de la durée d'ensoleillement, en fonction de la quantité d'eau et en fonction des petites bestioles qui se baladent, la couleur peut non pas passer du bleu à l'orange, ne rêvons pas, mais avoir quelques petites teintes subtiles différentes.
On passe à la question de Dominique. Le confinement m'a donné une idée. Laisser une partie de mon jardin, c'est environ 130 mètres carrés, nous dit Dominique, laisser une partie du jardin à la vie sauvage. Quelle surface pourrais-je y laisser pour que ça en vaille la peine, sachant qu'il y a déjà sur ce terrain un grand cerisier et un bouquet de trois bouleaux?
Alors, les éditions Larousse vous auraient dit 1 mètre carré suffit. Ils ont écrit un ouvrage jardiner dans 1 mètre carré. C'est possible, mais c'est quand même compliqué. Il y a Stéphane et Cathy Head qui, eux, avaient écrit un livre sur 4 mètres carrés de nature. Ils se sont amusés à observer pendant plusieurs années, ce qui se passait simplement sur un carré de 2 fois 2. C'est incroyable, la nature, la végétation qu'il peut y avoir sur 4 mètres carrés. Je dirais 4 mètres carrés, c'est pas énorme, j'en conviens, mais pour voir des merveilles dans la terre, c'est parfois suffisant.
4 mètres carrés, d'accord. Gunther, maintenant, il nous dit, je suis désespéré de voir chaque année mon cerisier porter des cerises bien rouges, mais celles-ci sont en quasi-totalité rendues non comestibles à cause de la mouche du cerisier. Et comment pourrais-je le protéger contre ce fléau ? Dites-nous Alain.
Alors, il y a 2 méthodes éventuelles. La première, j'aime pas tellement, ce sont les petites plaques jaunes de papier tue-mouche qui attirent les insectes et qui permettent de tuer les mouches avant qu'elles ne viennent pondre.
Ah, attention. Mais vous n'aimez pas tuer les insectes,
non,
alors.
Oui, déjà, et puis en même temps, il y a les oiseaux qui viennent, peuvent se coller. Mais avez-vous entendu parler dans le domaine de la lutte des petites bestioles, de la confusion sexuelle ?
Venant de vous, ça ne m'étonne qu'à moitié. Non, racontez-moi.
Mais c'est très sérieux. En fait, la confusion sexuelle, ce sont des pièges à phéromones que l'on met près du cerisier. Et cette manière de faire diffuse dans l'atmosphère des éléments qui perturbent l'insecte reproducteur. L'insecte, en fait, pourquoi il vient sur votre pommier, sur votre cerisier? C'est pour rencontrer l'âme sœur. À partir du moment où il y a la confusion sexuelle, il ne sait plus où sont les femelles, il s'égare, il est épuisé, il meurt d'épuisement. C'est pas joli, j'en conviens.
Ouais, c'est pas une très belle histoire d'amour, ce que vous nous racontez.
Oui,
là.
Il ne peut pas se reproduire, donc il ne pourra pas produire de petites bestioles qui mangent vos cerises. C'est une méthode employée par les grands producteurs de fruits, donc ça peut faire sourire, mais la confusion sexuelle donne d'excellents résultats. Et on le trouve dans toutes les jardineries. Je vous rassure, c'est pas un bazar à mettre en place, mais ça existe vraiment.
On passe à la question de Jean-Yves. Un magnolia de 2,50 m de haut et âgé de 30 ans planté dans un massif de terre de bruyère a donné de magnifiques fleurs ce printemps. Depuis quelque temps, le feuillage devient vert très clair et des feuilles semblent brûler. Que se passe-t-il, Alain ?
Il y a quantité de raisons qui peuvent expliquer éventuellement les soucis. Il y a bien sûr l'air sec, il peut y avoir le soleil, le coup de soleil. Vous savez, on a parfois des printemps extrêmement pluvieux. Le ciel est toujours envahi de nuages et d'un seul coup, le soleil vient et comme on dit, il tape et il tape fort et la plante peut en souffrir. Mais il y a également quelques problèmes de maladie parfois qui peuvent affecter le magnolia. S'il y a d'abord un petit cercle marron sur la feuille, que ce cercle s'élargit, provoque la mort de la feuille et sa chute, alors oui, il s'agit du champignon dans quel cas il faut couper pas seulement les feuilles qui sont atteintes, mais les tiges qui ont porté les feuilles. Donc, mais je pense plutôt à un problème d'ensoleillement brutal.
D'accord. Anne nous a écrit. Anne, elle est inquiète pour un nif dont les feuilles deviennent jaunes. L'if pourrait avoir 400 ans, nous dit-elle. Et d'après le paysagiste qui s'occupe du jardin, il pourrait s'agir d'un champignon dans les racines.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Les ifs sont merveilleux. Les ifs peuvent vivre des milliers d'années. C'était une plante qu'on employait beaucoup dans les cimetières. Il y a encore en France et en Normandie en particulier des ifs plusieurs fois millénaires qui encadrent justement la sépulture de le disparu. Si le champignon est dans les racines, que voulez-vous y faire ? Le champignon sur un bois, c'est en fait la fructification d'un réseau de mycélium à l'intérieur du bois. On ne peut pas traiter l'intérieur. Malheureusement, la plante n'est pas vraiment condamnée parce que l'if est capable de résister à tout. Vous savez, quand on a vécu 400 ans, ouais, c'est pas un petit champignon qui va faire du mal. Quand mais même. Quand même, soyons prudents, il faut donc réduire légèrement l'if. Il repart bien de la souche. Vérifiez qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une attaque d'araignée rouge. On les voit, ce sont des petites bestioles rouges par-dessous le feuillage. Mais s'il s'agit d'un champignon, on accompagne la plante, on supprime le bois mort au fur et à mesure et on espère simplement que la plante continuera de vivre, mais elle a quand même quelques soucis.
On a quelques secondes, Alain Baraton, pour parler d'un livre pour finir.
Alternative au gazon, magnifique, Olivier Philippi, Actes Sud, c'est que mettre à la place du gazon quand on en a assez de cette herbe sempiternellement verte. C'est un ouvrage savant, un ouvrage sérieux, mais un ouvrage passionnant à lire. Il se destine aux vrais jardiniers, aux bons jardiniers ou à ceux qui veulent le devenir. Olivier Philippi, Alternative au gazon, et c'est publié chez Actes Sud.